Jean Lorrain, l'un d'eux. Le mystère attirant et répulsif du masque, qui pourra jamais en donner la technique, en expliquer les motifs et démontrer logiquement l'impérieux besoin auquel cèdent des jours déterminés certains êtres de se grimer, de se déguiser, de changer leur identité, de cesser d'être ce qu'ils sont, en un mot, de s'évader d'eux-mêmes. Quels instincts, quels appétits, quelles espérances, quelles convoitises, quelles maladies d'âme, sous le cartonnage grossièrement colorié des faux mentons, des faux nez, sous le crin des fausses barbes, le satin miroitant des loups ou le drap pendait des cagoules. À quelle ivresse de haschich et de morphine, à quel oubli d'eux-mêmes, à quel équivoque et mauvaise aventure se précipitent les jours de bal masqué, ces lamentables et grotesques défiés de dominos et de pénitents. Ils sont bruyants, désordonnés de mouvements et de gestes, ces masques. Et pourtant, la gaieté, leur gaieté est triste. Ce sont moins des vivants que des spectres. Comme les fantômes, ils marchent pour la plupart enveloppés dans des étoffes à longs plis. Et comme les fantômes, on ne voit pas leur visage. Pourquoi pas des striges sous ces larges camailles encadrant des faces figées de velours et de soie? Pourquoi pas du vide et du néant sous ces vastes blouses de pierrot drapées à la façon des suaires sur les angles aigus des tibias et des humérus? Cette humanité qui se cache pour se mêler à la foule, n'est-elle pas déjà hors la nature et hors la loi? Elle est évidemment malfaisante, puisqu'elle veut garder l'incognito, mal intentionnée, et coupable, puisqu'elle cherche à tromper l'hypothèse et l'instinct sardonique et macabre. Elle emplit de bousculades, de lazzi et de huées la stupeur hésitante des rues, fait frissonner délicieusement les femmes, tomber en convulsion les enfants, et songer vilainement les hommes, tout à coup inquiets devant le sexe ambigu des déguisements. Le masque, c'est la trouve face trouble et troublante de l'inconnu, c'est le sombre sourire du mensonge, c'est l'âme même de la perversité qui sait corrompre en terrifiant, c'est la luxure pimentée de la peur, de l'angoissant et délicieux aléa de ce défi à la curiosité des sens. Est-elle laide? Est-il beau? Est-elle jeune? Est-il vieux? C'est la galanterie assaisonnée du macabre et relevée, qui sait, d'une pointe d'ignoble et d'un goût de sang. Car où finira l'aventure? Dans un garni ou dans un hôtel d'une grande demi-mondaine? À la préfecture peut-être, car les voleurs se cachent aussi pour commettre leur coup. Et avec leurs sollicitants et terribles faux visages, les masques sont aussi bien des coupe-gorge que de cimetières. Il y a en eux du tire-laine, de la fille de joie et du revenant. Voilà pour ma part l'impression un peu opprimante et déprimante aussi que me laissent les masques. Or, cela est tout personnel. Mais l'âme dans ces masques, le passé ou même le présent, il est présent d'un de ces êtres mystérieux de soie et de carton, dans de ces masques isolés, surtout de ceux que l'on voit les nuits des bals masqués, errer grelottant et piteux d'un trottoir à l'autre, sous les colivets des passants, dira « voilà ». Ce qui serait curieux de connaître, la raison du costume et l'incognito d'un de ces désemparés, inquiétantes épaves de la joie populaire, échouées par les nuits de gelée à travers les grandes villes, fantoches nocturnes, nées peut-être à la lueur blême des becs à verre et des lampes électriques, au jour naissant évanoui. Il y a une dizaine d'années, il me fut donné de rencontrer un de ces masques, un de ces mystérieux anonymes des nuits de bal, et dans des circonstances qui, ressongées depuis, ont donné à l'être coudoyé cette nuit-là la grandeur tragique d'une figure. Se déguiser, pour moi, est demeuré le masque type, symbole vivant d'un mystère innommé et d'une énigme pressentie. Je m'étais terré cet hiver-là aux environs de Paris. J'avais un long et minutieux travail à terminer, et des raisons de santé et d'économie aussi m'avait décidé à m'éloigner momentanément. Mes affaires m'appelant souvent rue des Richelieu et de Saint-Lazare, j'avais choisi un coin parmi la grande banlieue, celle que dessert la ligne de l'Ouest, et j'hivernais assez tristement dans un petit village entre Triel et Poissy. Le samedi gras tombait cette année-là, le 25 février. La coïncidence d'une affaire à conclure avec un journal et d'une invitation à dîner m'avait amené à Paris. Il y avait bal à l'opéra, et sous la neige floconnante, je m'étais attardé à regarder les masques et les dominos s'échelonner sur les marches du monument Garnier. Des fiacres, des coupés de maîtres en versaient à chaque minute, tant sous le péristyle du théâtre que devant les brasseries et cafés. Puis c'était des nuées de pierrots et de moines s'engageant sur la plage gelée, et gardé par des municipaux à cheval et en dépit des sergents de ville, gambadant et formant des rondes dans le grand espace vide réservé à la circulation des voitures, comme un vent de folie soufflait cette nuit-là par la ville, tant et si bien qu'amusé, intéressé moi-même, j'oubliais l'heure du train et du dernier possible, et qu'à minuit et demi, j'étais encore assis dehors à une table de café. Plus le train maintenant, avant 2 heures du matin. Je prenais mon parti assez gaiement, car il y avait encore foule de curieux sur le boulevard et des cris et des lazzi dans les brasseries bondées de costumes. Mais vers 1 heure, les rues et les établissements de nuit se vidèrent. Les déguisés rentrèrent au fur et à mesure, et les flâneurs au logis. La vie et le mouvement ne se répandraient plus maintenant qu'à l'heure des soupers. Pas mal d'établissements fermaient. Et sous la neige toujours plus dense, je me levais assez tristement et me dirigeais vers la gare. Il y avait aussi bal à l'Éden cette nuit-là, et de la façade illuminée de la rue Boudreau montait un bruit de bacchanale monstrueuse qui roulait, qui assourdissait, qui ronflait. Et au loin, en écho, c'étaient les valses distinctes venant de l'opéra. Et dans la rue Aubert, déjà noire, un masque marchait devant moi, enveloppé d'un grand burnous d'arabe, la tête encapuchonnée et le sombre. Il allait évidemment à l'Éden, où il ne s'était pas mis en frais, ce masque, car ce burnous, ce capuchon, l'incohérence même de ce costume de briques et de braque révélait assez le déguisement improvisé, machiné au dernier moment, au hasard des tiroirs. Je le suivais quand même, instinctivement des yeux, mais une fois dans la projection lumineuse de l'Éden, le masque s'arrêtait et au lieu d'entrer, hésitait, piétinait dans la neige fondue, arpentait le trottoir et finalement regagnait la rue Aubert dans la direction de l'opéra. Mais je l'avais vu et ce que j'avais pris pour un capuchon noir était un camail de velours vert, un camail de moine. Et dans l'ovale du capuchon, une étoffe métallique et brillante, percée à la place des yeux, une cagoule de drap d'argent luisait d'une façon bizarre. Ah, encore un qui paraît manquer de décision, pensais-je en moi-même. Et je poursuivis mon chemin. Arrivé cours de Rome, le temps de prendre un dernier grog dans une des brasseries voisines, je montais l'escalier et parvenais dans la salle d'attente. Je sursautais de surprise. Ce grand manteau blanc, d'une blancheur soyeuse, cette face de craie dans ce capuchon verdâtre, mais mon masque était là. Là, dans cette grande salle banale et solitaire où il n'y avait que lui et moi. Le gaz flambait haut entre les murs lambrissés de chêne et affalé dans un des fauteuils de velours vert, l'étrange voyageur se tenait, le menton appuyé dans une main et dans l'évidente attente du train que j'allais prendre. Je le croyais au bal, et l'inexpliqué de sa présence me donnait un petit froid. M'avait-il suivi? Mais non, puisque je le trouvais là, ne bougeant pas, et en suivant la direction de ses yeux, je vis qu'il était absorbé dans la contemplation de ses jambes. Elles étaient moulées dans un maillot de soie noire qui en serrait tout entier, car son burnous était un peu ouvert. Mais, chose bizarre, tandis que la jambe droite était gardée d'un bas de femme, un bas de soie verglauque, serré au-dessus du genou d'une jarretière de moire, l'autre pied avait une chaussette d'homme, une chaussette de soirée à semi de fleurettes, si bien que il était double ce masque, et je voyais au charme terrifiant de sa face de gouloul le trouble équivoque de son sexe incertain. Son costume que j'examinais révélait maintenant des curieuses préciosités voulues. Une énorme grenouille de soie verte s'éclairait, brillait à la place du cœur, et autour de son capuchon de velours glauque, une couronne, que je n'avais pas remarquée d'abord, se tressait, composée de grenouilles et de lézards. Le burnous arabe l'enveloppait comme un suaire, et sa cagoule de drap d'argent évoquait des idées de lèpre, de peste et de malade, dit maudite comme en connut le Moyen-Âge. Damné devait grimacer sous ce masque. Il était à la fois oriental, monastique et démoniaque. Il sentait le lazaret, le marécage et le cimetière. Il était aphrodisiaque aussi dans sa souplesse de femme et fermement souligné par le maillot noir. Homme ou femme, moine ou sorcière. Et quand il se leva au « Messieurs les voyageurs, en voiture !» de l'employé de la compagnie, je crus voir se dresser devant moi le spectre de l'éternelle luxure, la luxure d'Orient et la luxure des cloîtres, la luxure au visage dévoré par les chancres et la luxure au cœur flasque et froid comme un corps de reptile, la luxure androgyne, ni mâle ni femelle, dans la luxure impuissante, car suprême détail, le masque était la moindre large fleur armée de nénuphars. L'être au burnous montait dans un wagon de première. J'attendis qu'il y fût installé pour monter à mon tour dans mon compartiment. J'aurais plutôt demeuré couché à Paris que de voyager en tête à tête avec cette face d'ombre. Mais une curiosité m'obsédait, une angoisse aussi. Je ne respirais un peu que lorsque le train se mit en marche. Le premier quart d'heure fut lugubre. Si le masque allait pénétrer dans mon compartiment, de quel côté allait-il apparaître? Je surveillais les deux portières, prêt à tout événement. Mais mon voisin ne bougeait pas, ne faisait aucun bruit, aucun. Oh, la tentation était trop forte. Je me levai et je m'approchai de la petite vitre de communication. Sous la clarté diffuse de la lampe, le masque était là, accoudé, presque couché dans les grands plis de son burnous, ses deux jambes étonnamment fines allongées sur la banquette. Il tenait à la main un petit miroir de poche et s'y regardait longuement. Il se regardait et la cagoule argentée couvrait toujours le visage. Étrange voyageur, je pouvais quitter mon poste d'observation. Le train, ou un interminable omnibus de nuit, roulant avec une lenteur à travers la banlieue neigeuse, Et le masque descendit à la quatrième station. Il était près de 3 heures du matin. Ni diligence, ni voiture à l'arrivée en gare. Personne. Il remettait son ticket à l'employé, franchissait la barrière et s'engouffrait en rase campagne, dans le noir, dans le froid, dans de l'inconnu.